Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Voilà, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre examen du dieu Srausha, auquel le Yasna fait place avec le Yasna 57, avec son 57e chapitre. Nous avions, pour la deuxième partie de la leçon de la semaine dernière, examiné ces épithètes traditionnelles et systématiques, puisqu'il s'agit des épithètes attestées par la Schnuman d'une part, au génitif singulier, par la formule de base du Yasna ensuite. Nous avons constaté, ce qui ne peut pas surprendre, que certaines faisaient référence à l'activité guerrière. Nous avions constaté que certaines d'entre elles dénotaient son appartenance au monde matériel et sa matérialité elle-même, dans une certaine mesure du moins. Nous avions eu l'attention attirée principalement par trois traits, c'est-à-dire son association à la déesse Ashi, sur laquelle nous reviendrons. Je propose d'examiner cela en examinant Ashi et non pas le dieu Srausha. Sa qualité de Ratu, qu'il est le seul à partager avec Ahura Mazda, et que, dans une certaine mesure, je vous l'avoue, je ne comprends pas parfaitement. Mais nous y ferons une allusion. Enfin, ce qui est peut-être, comme nous allons le voir, décisif, c'est la seule divinité dont je vais dire la titulature officielle comporte la qualité de Vrtrajan, c'est-à-dire de briseur d'obstacles. Alors, le récit lui-même du Yasna 57, au-delà des épithètes. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons abordé le Yasht 13 au Fravashi, j'ai basé l'analyse que j'ai faite de ce texte sur le fait qu'il était rythmé par le récit de trois cosmogonies, hein, ce qui nous a permis de dégager la fonction mythologique des Fravashi. Le même rythme ternaire peut se retrouver aussi dans le Yasht de Srausha, mais c'est à propos d'un fait d'ordre différent. Le Yasht à Srausha, le Yasna 57, donc, est ponctué par trois sacrifices, et chaque fois, l'évocation ou la description de ce sacrifice se dilue dans le thème de la protection. C'est un schéma qui se reproduit à trois reprises. Il y a une quatrième partie, en réalité, dont je dirai un mot, mais qui ne se rapporte plus à l'activité sacrificielle. Bon, le premier sacrifice, c'est celui que Srausha lui-même, on ne le dit pas, mais comme Zazaotar, probablement, rend à diverses divinités. La notation importante, c'est que il est la première créature de Mazda, dit le texte, à rendre le sacrifice à qui ? À Ahura Mazda lui-même, d'abord. Aux Ameshaspenta, ensuite. Puis à deux entités évoquées, selon la grammaire sanscrite, en Dvandva, c'est-à-dire en association morphologique. Et deux divinités que nous connaissons par un autre passage, mais sur lesquelles on peut s'interroger. Elles sont Payu, ce qui signifie le protecteur, hein, sanskrit Payu, le protecteur, et le Torshtar, le dieu védique Dvashtar, le dieu façonneur, le dieu tailleur de bois ou de pierre. On a beaucoup commenté ces deux noms en essayant de retrouver sous ces appellations particulières des divinités que nous connaissons sous un autre nom par ailleurs. Souvent, on a évoqué Ahura Mazda, on a évoqué Mitra, c'est pas Ahura Mazda comme façonneur et Mitra comme protecteur. Je ne suis pas très rassuré par ce type de discussion. Parce que remarquez-le, Ahura Mazda a déjà été cité. Il est cité en premier lieu. Il n'y a pas de raison de le citer une seconde fois. Mitra est absent du tableau. Je pense qu'il est peut-être plus sage de prendre ces deux divinités pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnalités divines que nous ne connaissons que par deux malheureux passages de l'Avesta, mais ce n'est pas le seul cas semblable. Mais ce qui est intéressant, c'est leur personnalité, n'est-ce pas ? C'est le sens même de leur nom. Torshtar, c'est l'acte de la création matérielle. C'est l'acte de la création matérielle. Donc, c'est bien le premier sacrifice rendu par un dieu matériel dans le monde matériel, que le sacrifice de que rend Srausha. Il le rend au façonneur du monde matériel. Ce verbe dvars est le verbe même, n'est-ce pas, de la fabrication des êtres vivants pourvus d'un corps. Et puis Payu. Par trois fois, les sacrifices débouchent sur la demande de protection. Dès qu'il y a monde matériel, il y a nécessité de protection. Il y a nécessité de protection. Dès lors, déjà, le tableau est dressé d'entrée de jeu dans le récit des sacrifices de Srausha. D'emblée aussi, les demandes qui se développent dans ce sacrifice et les forces qu'il dégage sont le fait de briser l'obstacle, on pouvait s'y attendre, c'est le grand moment, et d'autre part aussi la protection. Comme on peut aussi s'y attendre logiquement pour une divinité comme Srausha, le sacrifice n'est pas longuement décrit. Notez en passant que ça nous arrangerait bien, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans un monde où l'on sait ce que pensent les sacrificateurs, mais où on ne sait pas ce qu'ils font. À l'inverse de la situation pour le monde romain, comme le faisait remarquer mon collègue Scheid. Nous savons ce que les sacrificateurs font, mais nous ne savons pas pourquoi ils le font, parce que nous ne savons pas ce qu'ils pensent. Ici, nous sommes exactement dans une situation inversée. Alors, des actes du rite, nous ne saurons qu'une seule chose, c'est le déploiement du barsman, c'est-à-dire du faisceau de baguettes que le zaotar tient à la main. Mais pour le reste, les évocations seront exclusivement celles de la récitation. Celle de la récitation. Or, dans cette récitation, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la récitation est décrite dans la huitième strophe qui nous dit que Srausha, le premier, a récité les gathas en détachant les strophes et les vers, en détachant soigneusement dans sa diction les strophes et les vers et en y ajoutant commentaires et controverses. Sous cette étrange formulation, on peut trouver un schème, n'est-ce pas, emprunté au Gatha. C'est le Yasna 46-17, qui mentionne le nom Srausha. Nous ne savons pas si c'est la divinité ou l'abstraction, naturellement, comme il est d'usage dans les Gatha, mais à proximité, l'on trouve la mention des vers, Afshmani, les vers. Donc, le nom dans une strophe gathique aussi, le nom de Srausha est contigu, on ne peut rien dire de plus, à l'évocation des vers. Alors, une autre constante, cela c'est une constante des trois sacrifices que nous allons évoquer dans le texte de Srausha, c'est la métaphore de la maison. Prenez ce terme pour ce qu'il faut, je n'en connais pas d'autre. La maison, c'est une réalité aussi bien matérielle, mais nous ne savons pas à quoi pouvait bien ressembler une maison avestique. J'évoque simplement le mot d'aujourd'hui, je ne puis rien faire d'autre. D'autre part, ça évoque aussi une réalité sociale. La maison, c'est l'endroit où vit, où habite la plus petite unité du corps social, c'est-à-dire la famille linéaire. Le thème de la maison reviendra dans les trois sacrifices, mais cette fois-ci, dans la première fois, dans le sacrifice rendu par Srausha lui-même, dans le premier sacrifice, Voici ce que l'on nous dit de cela. C'est que Sraucha construit une maison. Il construit une maison pour celui qui en a besoin. Pour celui qui en a besoin. Ma traduction, attention, hein, elle est un peu, elle est approximative. Je me concentre surtout sur le sens du passage. Il construit cette maison après le coucher du soleil. Donc le sacrifice rendu par Sraucha consiste en une protection qui est figurée par la métaphore d'une maison que le dieu construirait après le coucher du soleil, pour la protection des hommes, bien sûr. Bon. Alors, une chose qui nous est apprise aussi, que nous apprend aussi ceci, c'est que la protection accordée par Sraucha est une protection nocturne. C'est une protection nocturne. Il y a une logique, et une logique très banale dans ces observations, c'est que le Sraucha est le dieu de la seconde partie de la nuit. Le dieu de la seconde partie de la nuit, c'est-à-dire de minuit à l'apparition de l'aurore. C'est le temps du jour qui lui est confié, c'est aussi le temps sacrificiel qui lui est consacré en particulier. Il est le dieu qui veille sur la phase sacrificielle de la seconde partie de la nuit. C'est la dernière phase du sacrifice tel qu'il est disposé dans l'yasna que nous possédons. Puisque l'yasna que nous possédons, d'autres possibilités existaient, toutes les possibilités existaient selon les époques de la journée, mais c'est un sacrifice qui commence au matin, qui commence avec l'aurore. Ainsi, donc, c'est la dernière phase du sacrifice qui appartient au dieu Sraucha. Or, cette phase du jour, cette phase de la journée est définie par le fait que c'est le moment où l'on chante et où l'on écoute chanter. Le moment où l'on chante et où l'on écoute chanter. Je ne sais pas si cette appellation a une valeur pure restrictive, c'est-à-dire sacrificielle, ou si simplement cela fait référence à des choses tout à fait banales de la vie quotidienne, c'est-à-dire que faire la nuit, n'est-ce pas, sinon peut-être se réunir autour du feu domestique et chanter. Hein. Les deux solutions sont très possibles, je ne sais pas, mais le dieu des sonorités est en tout cas associé à la phase qui est celle où la seule activité possible se résume à y mettre des sonorités. D'autres choses aussi sont impliquées par ce type de référence. Hein. C'est que Sraucha est, dans la littérature postérieure, ça n'apparaît pas dans l'Avesta, est un dieu psychopompe. C'est un dieu psychopompe. Une de ces divinités, selon les livres Pelvi, qui prend en charge l'âme pour la conduire au paradis. Or, si nous nous souvenons bien de notre Hadot Nasque 2, nous savons comment les choses se déroulent, n'est-ce pas ? Le moment critique pour l'âme de celui qui vient de mourir, c'est la nuit. C'est la nuit. Et la seule façon qu'il a de soulager l'angoisse des nuits de la mort, avant d'accéder au paradis, est de réciter la strophe gathique Yasna 43.1. Yasna 43.1. Et dès lors, après cette récitation, l'âme trouve la sérénité, c'est-à-dire est capable de sommeil et trouve aussi l'espoir que les choses vont bientôt s'arranger. Mais il faudra 3 nuits pour cela. Or, cette récitation dans la nuit, on sent que c'est aussi quelque chose qui est du domaine de Sraucha, même si l'Avesta n'en dit rien. Mais on comprend le motif ultérieur. Simplement, peut-être n'est-il pas documenté dans nos textes. Autre chose aussi, c'est une question que pose le livre du Videvdat. On nous dit ici, Sraucha sacrifie, il sacrifie aux autres divinités, pour montrer l'exemple du sacrifice dans le monde matériel. Oui, il est Zavtar, mais qui sera son Sraucha Vars, celui qui organise les sonorités. Normalement, d'après son nom, cette charge doit être assumé par Sraucha lui-même. Mais Sraucha fonctionne comme Zaoutar. Il faut donc qu'il délègue l'autre charge. Ben, on ne manipule pas comme l'on veut les fonctions sacerdotales. Alors, qui sera le Sraucha Vars de Sraucha lorsqu'il lui-même est le Zaoutar? Eh bien, nous dit-on, c'est le coq. C'est le coq. Le coq porte en avestique le nom de Parodars. C'est son nom liturgique, Parodas. Littéralement, celui qui voit avant. Celui qui voit avant. Vous comprendrez exactement à quoi on fait allusion. Ceux d'entre vous qui ont encore la chance de pouvoir entendre chanter le coq, ce qui devient extrêmement rare, savent qu'ils ne saluent pas l'aurore, comme on le dit trop souvent. Ils chantent bien avant l'aurore, vers 2 h du matin, lorsque l'aurore n'est encore que théorique. N'est-ce pas ? On sait seulement qu'elle viendra. Donc l'oiseau qui voit l'aurore sans qu'elle soit visible et du coup entame son chant, et le Saucha Vars du dieu Saucha lorsqu'il rend le sacrifice. Bien, et alors, la dilution dont je vous parlais dans le thème de la protection, et cette protection prend une figure antidémoniaque. C'est nouveau, c'est la première fois. Pour les trois sacrifices, ce sera comme cela. C'est le combat contre les démons. Hein, c'est le combat contre les démons. Combat tout à fait physique. Hein, les armes sont mentionnées, les coups sont mentionnés, l'extrême cruauté des coups est mentionnée elle aussi, puisqu'il s'agit de frapper, et après avoir frappé, d'anéantir le corps de celui que l'on a vaincu. C'est donc un combat extrêmement brutal qui est évoqué ici. Alors, deuxième sacrifice, à partir de la strophe 13, c'est le sacrifice que les hommes rendent à Saucha. Ça se fait sous la forme d'une exhortation. Nous retrouvons la littérature peut-être d'exhortation dans ce petit lambeau. C'est le sacrifice le moins décrit. On ne sait pas exactement ce que font les hommes, mais on peut imaginer qu'ils font très exactement ce que Saucha a fait. Or, ce sacrifice est une garantie contre les calamités qui peuvent frapper une maison. C'est ici que revient le thème de la maison. Ces calamités s'éloignent de la maison, à nouveau, de ceux qui sacrifient à Saucha. Le combat antidémoniaque sera lui aussi évoqué, à nouveau, par 4 longues strophes, pas, combat physique contre les dieux, avec une notation qui n'a pas encore été donnée, mais qui a peut-être une certaine importance, c'est que si Saucha est bien le dieu de la nuit, il est par excellence le dieu qui ne dort pas. C'est ce que dit le texte. Saucha n'a plus dormi depuis que les deux Manu se sont répartis leur création, la création du bien et la création du mal. Il n'a plus dormi car sa fonction protectrice ne le lui a plus permis. Je vous rappellerai en passant que nous avons peut-être un écho de cette conception dans les inscriptions achéménides, lorsque Darius dit que il donnait ses ordres et le jour et la nuit. Peut-être que par là, il faut, sur la banalité du propos, ben oui, on peut bien douter qu'un roi achéménide était capable de se faire obéir le jour et la nuit. Ça paraît une banalité. Mais peut-être est-ce dire « je veille dans la nuit ». Le roi ne dort pas. Le roi ne dort pas. Il veille à l'ordre des choses durant la journée tout entière. Donc là, nous avons le deuxième sacrifice. Maintenant, nous pouvons évoquer le troisième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'est celui qui est le plus longuement décrit. Il est très longuement décrit. Hauma, donc le dieu plante, le dieu liqueur, sacrifie à Saucha. La même situation se retrouve dans le Miryasht, le Yasht Amitra. Mais là-bas, la situation est décrite plus longuement. La décision de rendre le sacrifice à Mitra est prise par Ahura Mazda. Il apparaît très clairement que ce sont le sacrifice d'investiture des dieux. Il s'agit du fait que dès qu'un dieu appelé à agir dans le monde matériel, comme Saucha ou comme Mitra, avant qu'il se mette à fonctionner, quand la création matérielle a eu lieu, Ahura Mazda lui fait rendre un sacrifice d'investiture. Hein, sa fonction peut commencer. Ça lui confère toutes les qualités qui sont nécessaires pour remplir sa mission. Or, la décision est prise par Ahura Mazda, mais Ahura Mazda désigne Hauma comme Zautar. Lui-même sera membre du collège sacerdotal. Malheureusement, on ne dit pas quelle fonction. Mais le collège sacerdotal, ce sont les 7 Ameshaspenta avec Ahura Mazda. C'est pas donc ces personnalités officient comme les prêtres qui assistent le Zaoutar. C'est donc un sacrifice divin. Effectivement, il est prestigieux, il est étrange même. On ne peut pas le concevoir. Il a lieu auprès, c'est un locatif, on ne sait pas si c'est sur ou en dessous, ou bien bon, tout près, auprès de cette montagne qui s'appelle la Hara Berzaïti. Hara Berzaïti, une hauteur, dit le texte. Ce n'est pas le terme montagne qui est utilisé, jamais. C'est la Hara Berzaïti. C'est le nom d'Elbourz aujourd'hui, évidemment, par désignation, mais ça, au départ, c'est autre chose. Le nom est très clair. C'est le poste de surveillance. C'est le haut poste de surveillance, la haute garde, pourrais-je dire, si je devais traduire le nom de cette montagne. Or, le fait que ce soit une montagne, une hauteur, c'est une figuration. En réalité, dans les textes avestiques, c'est très clair, c'est la montagne de l'aurore. C'est cette montagne que nous ne voyons pas, mais dont la présence est évidemment nécessaire pour que le soleil ne soit. L'aurore et le soleil n'apparaissent pas. Et puis, en se levant, il faut nécessairement que le jour, que les éléments du jour, aurore, mitra, etc., le soleil, escalade le versant invisible de cette montagne pour apparaître dans le ciel. C'est la montagne c'est la montagne de l'Est, pas celle qui, à l'Est, ne nous permet pas de voir toute cette mécanique aurorale se dérouler, ou alors n'est perceptible qu'à partir d'un certain degré de développement. Alors, c'est aussi le point de contact du ciel et de la Terre, l'horizon, bien sûr. Hein, l'horizon, c'est le point de contact du ciel et de la Terre. Or, je crois qu'Éric Pirard a très bien compris ce passage lorsqu'il y a vu un gigantesque sacrifice cosmique, où le Soma, le Zaoutar lui-même, d'abord c'est ce fait-là, premier fait étrange dans ce sacrifice, Soma, ce sacrifice va être narcissique. Hein. Soma va se pressurer, se filtrer, se boire et se ressusciter lui-même. Figurez-vous ça, hein, c'est difficile, c'est pas une gigantesque opération sacrificielle narcissique. Comment ce Hauma va-t-il être pressuré? Eh bien, on peut imaginer que le ciel est le pressoir supérieur et la terre le pressoir inférieur. Sacrifice divin, donc grand sacrifice cosmique, n'est-ce pas, où les deux pressoirs à Soma sont le ciel et la terre. Le texte ne le dit pas, mais cela ressort effectivement de quelques notations, disant que ce sont d'étranges pressoirs que ceux qui sont étoilés. Le pressoir étoilé, c'est évidemment le ciel. Ici aussi, l'insistance sera mise sur la récitation. C'est ce passage que nous avons exploité, rappelez-vous, pour déterminer que l'Avesta ancien, aux yeux de l'arrangeur du Yasna, était un triptyque et non un diptyque, un triptyque Gata, Yasna Haptankaiti et Shusho Mantra. Ce sont les textes qui sont explicitement mentionnés par le sacrifice de Soma. Et il y a une métaphore de la maison, si nous la retrouvons, mais dans une nouvelle perspective, encore, troisième perspective, c'est que ce sacrifice de Hauma consiste à faire une maison pour Srausha. Faire une maison pour Srausha. Et cette maison se situera sur la montagne de l'aurore, sur la Hara Berzaïti, hein, ce qui correspond à son rôle à la fois de surveillant et aussi de dieu pré-auroral, si l'on veut. Mais un terme ici se fait obsédant dans ce passage sacrificiel. C'est le mot Vartrakni. C'est un dérivé de Vartrahan, de Vartrajan, Vartrakni, dérivé en I avec Vriddi, c'est-à-dire augmentation de la quantité vocalique dans la syllabe initiale. Adjectif avec suffixe secondaire, avec suffixe i. Vartakni, si nous prenons les choses sous l'angle de la régularité grammaticale, c'est un adjectif de temps. comme la plupart des adjectifs de cette formation. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui convient au moment du vertra-gna, hein, c'est-à-dire qui est adapté au moment où l'obstacle est brisé. Ce terme se fait obsédant dans le troisième sacrifice, celui que Hauma rend pour les dieux à Saosha, qui l'investit ainsi de sa fonction divine. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Une donnée qui est, je pense, fort importante, c'est qu'on nous explique, on ne l'a pas fait, hein, on explique de manière tout à fait claire l'articulation entre le sacrifice d'une part et le combat antidémoniaque d'autre part. C'est par un transfert. Les textes récités lors du sacrifice, nous les connaissons, Gata, Yasna Raptan Kaiti, Shusho Mantra, eh bien, ces textes deviennent des armes dans la main de Saosha. Elles lui servent d'armes dans son combat antidémoniaque. Il y a donc un transfert, hein, il y a un retournement, en quelque sorte. Le texte se métamorphose en une arme. De manière plus saisissante, peut-être parce que là, l'inversion est absolue, on a pu relever, mais il y a peut-être déjà un certain temps que nous avons vu cela ensemble, que dans le texte consacré à Hauma, le Homestorm consacré au pressurage, le coup de pressoir subit une métamorphose de ce type. Naturellement, ça, les textes sont très clairs, n'est-ce pas, le Hauma ou Soma Hauma, le pressurer, c'est le tuer, le texte le dit. Il est frappé, il est tué. Son corps va disparaître, d'ailleurs, par le pressurage. Certainement, mais en même temps, ce coup-là est un coup assassin des démons. Hein. Le coup qui tue Soma tue aussi les démons. Hein. Et cela est dans le rite aujourd'hui encore rendu tout à fait explicite par le petit geste rituel qui consiste à frapper, hein, à frapper le pressoir contre le mortier, hein, pour faire un certain bruit, bien sûr, et en déclarant que tout ceci, c'est pour tuer un tel, c'est pour tuer le démon un tel, tuer la démon une telle, n'est-ce pas ? Donc le coup qui tue Soma est en même temps un coup qui tue les démons. Alors on voit comment ainsi s'articule, hein, dans les sacrifices rendus à Soma, l'activité guerrière antidémoniaque, en quelque sorte. Mais je dirais encore un mot ici, c'est la nouveauté sans doute dans ce texte, c'est que jusqu'ici, à part quelques petites notations isolées, et qui pour la plupart appartiennent à l'économie stricte du texte qui a été utilisé, dans le Homestorm par exemple, n'est-ce pas ? La démonologie, et d'une manière générale, ce que nous avons appelé avec Chervé le praise and blame, c'est-à-dire dire du bien de quelque chose est indissoluble de dire du mal d'autre chose, eh bien, c'était relativement absent. C'était relativement absent de la rhétorique du sacrifice du Yasna. Sans doute, il y a des notations praise and blame dans le Homestorm, mais c'est l'économie du Homestorm. Il y en a, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, dans les gathas, mais cela tient aussi pas à l'économie des gathas. Mais jusqu'ici, la version blame de la rhétorique, hein, le blâme, n'est-ce pas, infligé à certaines catégories de divinités et d'hommes, était extrêmement peu présente dans le texte, très peu présente. C'est avec le Yash de Saosha que la démonologie fait irruption, hein, dans le sillage bien sûr, du thème de la protection nécessaire à accorder au monde matériel. Alors, je vous disais, ces trois sacrifices qui ponctuent le texte ne l'épuisent pas. Il y a quelques strophes, à partir de la strophe 27, en tout cas à partir de la strophe 27, il y a 33 strophes réelles, hein, 33 strophes réelles, il y en a en réalité une 34e. Alors, ces sept dernières strophes, elles sont un peu embarrassantes. On fait l'éloge, on décrit l'activité de Saosha dans cette strophe, en reprenant un vocabulaire, un formulaire qui est aussi utilisé pour Mitra. On dit des deux, de telle sorte que dans le Yasht, dans le Yasht 57, on dit de Srausha très exactement, avec les mêmes mots, ce que certains passages du Yasht disent de Mitra. On a l'impression que les deux divinités deviennent comme cela interchangeables, ou que leur personnalité se confond en définitive, et cela a fait couler beaucoup d'encre, et quelqu'un comme Neuberg, par exemple, en 1937, pensait que Srausha n'était que le déguisement de Mitra, etc. Toutes sortes de ce type de considérations. Je suis en effet toujours embarrassé aussi par ce qui semble de la confusion, parce que je crois que ce sont des textes qui, malgré l'apparence, ne pratiquent pas du tout la confusion. Mais ici, il faut bien admettre que quelque chose s'est passé. Quelle est la logique, n'est-ce pas ? Eh bien, la logique, ça serait qu'il y ait un relais entre Srausha et Mitra. Srausha est la divinité de la nuit, hein, de la seconde partie de la nuit. Mitra, la divinité de l'aurore. Mitra, la divinité de l'aurore. Il semblerait que l'aurore qui vient devrait être le moment où l'activité protectrice de Srausha cède le relais à l'activité protectrice de Mitra. Mitra est le dieu auroral par excellence. Son Yasht trouve, pour nous le dire, des passages qui évoquent toute la couleur des hymnes de l'Inde védique, n'est-ce pas, où l'on voit que Mitra saisit les aurores dans le réservoir des aurores, hein, qu'imagine la poésie indo-iranienne, n'est-ce pas, saisit dans ce grand réservoir des aurores celle qui doit se lever ce jour-là. Hein, et il la suit, hein, pas, en escaladant la montagne dont nous avons parlé. Donc, le dieu auroral par excellence, alors dire de Mitra comme de Srausha qu'il ne dort pas, que durant toute la nuit il protège le monde matériel, ça pose quelques problèmes. Ça nous pose quelques problèmes, mais bon, c'est un problème annexe, je ne veux pas l'évoquer ici. Alors, si vous le voulez bien, après vous avoir décrit cette activité, du dieu Srausha, d'après le texte inséré dans l'Yasna, nous allons nous résumer, ou même en tirer certains éléments d'analyse. Il y a quelque chose de semblable dans le problème de Srausha, quelque chose est semblable au problème des Fravashi. Est-ce une divinité purement iranienne? Son nom est purement iranien, comme celui des Fravashi, purement iranien. Mais nous avons suffisamment de matériel qui atteste que les verbes qui ont servi à construire le nom des deux divinités, des deux types de divinités, étaient des termes techniques de l'idéologie du sacrifice. Pour les Fravashi, la nécessité d'un choix sacrificiel officiel, hein, que le sacrifice doit s'ouvrir en déclarant une volonté de rendre le sacrifice à telle divinité plutôt qu'à telle autre. Bien, nous l'avons constaté encore dans un hymne 131, 139, je ne sais plus, n'est-ce pas, qui nous dit que, bon, Fernimae, nous choisissons telle ou telle divinité pour le sacrifice. Les Fravashi, personnifie, n'est-ce pas, l'action de dire « nous choisissons » ou bien « je choisis » au singulier. Srausha de même. Hein. Srausha, le verbe, comme nous l'avons vu avec les passages de la Taittiriya Sanhita et du Rig Veda, Srausha, le verbe pourvu du suffixe « es », n'est-ce pas, se rapporte nécessairement à l'exercice de la magie des sonorités du rite, dans le monde indien comme dans le monde iranien. Nous avons donc en background, comme on dirait en anglais, n'est-ce pas, toute la vieille idéologie sacrificielle indo-iranienne. Parce que ce n'est pas une innovation iranienne. Ce qui est nouveau, c'est l'accession à la personnalité divine, certes, mais ça n'est pas, ce ne sont pas des concepts nouveaux, ce sont les vieux concepts de l'idéologie du sacrifice. Alors, la situation dans la diachronie de l'Avesta, dans l'évolution du système mazdéen tel que nous le trouvons dans l'Avesta, eh bien, contrairement au Fravashi, Strauscha est gathique, mais il n'est pas aptahatique. Il apparaît dans les gathas sept fois le nom Strauscha est mentionné dans les gathas. Il ne l'est pas dans le Yasna Aptankaiti. Je vous rappellerai que le Yasna 56, tel que nous l'avons analysé ensemble lors de la leçon passée, est un étrange essai pour associer Strauscha à la structure sacrificielle du Yasna Aptankaiti, comme nous l'avons vu, à coup de citation, hein, et réelle ou manipulée, ou peut-être inventée. Mais cette association est postulée par le Yasna 56. Alors, la grande question dont on peut débattre est de savoir si l'abstraction Srausha, hein, qui donc, désigne cet exercice des sonorités du rite, hein, de manière réversible, hein, c'est écouter et produire, est-ce que cette divinité est déjà personnifiée ? En d'autres termes, est-ce un dieu déjà, un dieu personnalisé, hein ? Eh bien, nous pouvons peut-être répondre, essayer de répondre ou de montrer les difficultés que nous avons appréhendé cela en examinant le Yasna 44-16. Nous allons, donc le texte va apparaître. Le Yasna 44-16 est une strophe gathique. Il n'est pas très apparent. Hein.
Il faut attendre une minute.
Il faut attendre. Ah oui, ça se. Bon, ce sont deux vers en réalité. Les deux vers significatifs. Il y a un. Excusez-moi. Bon. En réalité, ces deux vers, j'aurais dû en mettre un troisième qui les précède, posent une question. La question est celle-ci. Que Veretrum Jar Poi. Qui est Vertrahan? Qui est Vertrajan, hein? Qui est le briseur d'obstacles? Poi, datif de but. Pour protéger. Interrogation. Question. Et semble-t-il, la réponse figure de manière un peu détournée dans les deux vers qui figurent ici que le projecteur nous a livrés. Je ne garantis pas exactement la traduction de Chitra Moidam, que des cadeaux remarquables me soient faits. Littéralement, le mot cadeau n'est pas là. Le mot cadeau n'est pas là. La traduction, c'est celle de Pirard et de moi-même qui se trouve ici, nous avons supplié le terme cadeau. Hein, c'est que des remarquables, quelque chose me soit donné. Chitra, c'est ce qui se voit facilement, ce qui est remarquable, ce qui saute aux yeux. Alors, nous avons postulé la chose la plus naturelle, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y avait un objet interne. On donne des cadeaux. Bien, ça s'appelle l'objet interne. Je suis moins convaincu que je l'étais il y a 20 ans parce que je savais bien, nous en avons parlé ensemble, j'ai pris conscience durant toutes ces dernières années de l'importance que représentait dans la rhétorique gathique le phénomène de l'ellipse. Les ellipses sont fréquentes, elles sont même hyper fréquentes. C'est l'un des ressorts de la rhétorique gathique. C'est laisser un mot en suspens. Hein, parce qu'il faut le deviner, parce que, bon, je ne sais pas, les motivations, nous ne les connaissons pas, mais les ellipses sont un phénomène moins simple qu'il n'y paraît. Nous avons techniquement adopté, je dirais, la solution peut-être la plus vraisemblable, mais qui n'est pas sûrement la solution. Hein. Alors, on s'adresse à quelqu'un que l'on appelle Ahum Bish. On retrouve le mot Ahu, hein, quelqu'un guérisseur de l'Ahu, guérisseur de l'état d'existence. La parenthèse rituelle, c'est que nous étions convaincus à ce moment-là, je suis toujours dans une certaine mesure, c'était que le mot Ahu, état d'existence, dans un certain nombre de contextes, pouvait être la désignation même de la cérémonie sacrificielle. Alors, fournis-moi un ratou, le mot ratou que nous connaissons bien, traduit par modèle. On pourrait dire mesure, on pourrait dire. Mais la traduction est correcte. Fournis-moi un ratou. Et que l'obéissance, Sraucho, cela je ne traduirai plus comme ça, je l'inscrirai à l'attention auditive, hein, et que la. Vienne à ce, je ne sais quoi, une nouvelle ellipse, c'est hoi, c'est tout simplement le pronom personnel, vienne à lui. Jantu, vienne, c'est l'impératif du verbe venir, en raison de la bonne pensée. C'est instrumental du nom de la bonne pensée, vohu, bon, et manankar, instrumental du nom de la pensée. Bon, ce sont deux vers qui vous donnent peut-être ici une petite idée de la difficulté que nous avons à comprendre ce que cela signifie en réalité. C'est la strophe où la probabilité d'une personnification déjà de Sraucha est la plus forte. Mais ne nous y fions pas trop. Alors, vous savez que dans une langue européenne moderne, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, nous devons dire qui, où, hein, vers. Oui, bien. Alors, immédiatement, dès qu'on emploie ce pronom relatif-là, nous posons l'existence d'une personne. Ce n'est pas vrai en indo-iranien ancien. On se demande simplement qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Mais on utilise l'interrogatif au nominatif singulier masculin. Ça ne garantit pas, hein, ça ne garantit absolument pas, ça ne garantit donc pas parfaitement la personnification. Mais il y a autre chose sur quoi j'aimerais ici attirer votre attention. C'est l'abondance dans cette strophe, y compris dans l'interrogation elle-même, de termes qui font le fond même, n'est-ce pas, du vocabulaire de l'hymne de Sraucha, la qualité de briseur d'obstacles. Hein, essentiel pour Sraucha, Vrtajan. Le thème de la protection, Poy, peut continuer. Ahum Bish, les démons que Sraucha tue dans le Yasna 57 sont dits Ahu Merch. C'est le contraire, c'est l'exact antonyme. Non pas ceux qui guérissent l'état d'existence, mais ceux qui le rendent malade. Les démons sont Ahu Merch. Ratu. N'oublions pas que Sraucha est le seul dieu déclaré Ratu avec Ahu Mazda. Et alors, Sraucha lui-même. Donc, nous avons ici visiblement une strophe où est concentrée de façon maximale, un certain nombre de concepts qui sont rapportés à la divinité Sraucha. Une question qui a été fortement débattue a été celle du rapport de Sraucha avec ce que l'on appelle les Amushaspenta, les immortels bienfaisants. Cette discussion, nous devons la poser autrement aujourd'hui pour des raisons évidentes et que je vais vous rappeler. Jusqu'en 1982, et on ne sait pas si loin que ça encore, jusqu'en 1982, la doctrine générale et indiscutée était que l'importance de 6 abstractions dont on relevait le nom dans les gathas était une originalité profonde de la doctrine gathique, dans la mesure où l'on attribue cette doctrine à Zarathoustra, on pensait que la pensée même de Zarathoustra avait pour schème essentiel la structure d'un panthéon nouveau composé de 6 entités. de six entités compagnons d'Ahura Mazda. Bon, et que ces entités ont été appelées Ameshaspenta, immortels bienfaisants. Nous savons depuis 1982 que ce n'est pas du tout le cas. Depuis un livre de Yonan Arten dont nous avons parlé il y a quelques années abondamment, dit Ameshaspenta im Avesta, Yonan Arten a fini par imposer l'idée, je dis fini par imposer parce que ça a été laborieux. Il est toujours très difficile de faire changer d'avis les gens qui ont discuté des problèmes depuis des décennies, puis qui, bon, psychologiquement c'est difficile. Mais aujourd'hui, je ne connais personne qui puisse mettre en doute les conclusions de Narten. La position de Narten a été la suivante, elle a montré qu'en réalité, nous trouvions dans les gathas devant une situation extrêmement labile. N'est-ce pas, les gathas, comme le yasna aptankaiti, semblent libres de produire de l'entité, de produire des allégories à volonté. On peut faire accéder au rang d'allégorie à peu près n'importe quel concept abstrait. Ce qu'a montré, au-delà du doute, Yohanan Arten. Et nulle part dans les gathas, on ne vous dira bien quelque chose d'aussi clair que nous disent les yasht, voilà. Il y a les six immortels bienfaisants qui ont la même pensée, le même esprit, et qui sont sept. Cela, vous ne le trouvez pas dans les gathas, ni dans les yasna aptankaiti. C'est un développement de l'Avesta récent. Alors, la situation, je dirais, est encore plus grave aujourd'hui, parce que, si vous en souvenez peut-être, il y a maintenant 2 ans, j'ai essayé d'établir avec vous que cette image d'un corps de six dieux associé plus étroitement à Ahura Mazda et défini par le titre d'Ameshaspenta dans l'Avesta récent lui-même était instable. C'est une représentation que l'on ne trouve de toute évidence que dans le Yashta 10 à Mitra, le Yashta 13 au Fravashi, et le yasht 19 au Kwarna. 3 yashts, là, effectivement, font bel et bien la théorie de ce groupe divin. Alors, la situation est la suivante. Nous y voyons relativement clair, parce que nous avons des données qui nous permettent d'établir en fonction de quelle spéculation ce secteur du Panthéon a été constitué. Alors, comment le processus a-t-il été entamé ? Bien, visiblement, la volonté est d'établir un corps de divinité, c'est dit explicitement, dont la particularité profonde est d'avoir été créé avant les autres. Avant les autres. Ahura Mazda les a créés avant les autres. Avant les autres, dans le cadre de l'Avesta récent, ça signifie avant la création du monde matériel, ce qui est dit aussi explicitement. Ce sont des Pauiriya Data Daman, Pauiriya Data Daman, dit le texte, Daman. Mettez ça, bon, je donne la forme neutre du thème. Donc, les créations créées en premier, littéralement. Création créée en premier. Elles sont immatérielles, celles-là, parce que la conception, c'est que les divinités immatérielles ont été les premières créées. Alors, quelles sont ces... Oui, souvent, c'est dans l'ordre énumératif de l'Avesta récent, c'est la pensée, Vohumana, c'était ici, hein, c'est l'harmonie du monde, Asha, c'est Kshatra, la capacité en général, le pouvoir de faire quelque chose. Ce sont des mots neutres. Et puis viennent les entités féminines, Armaiti. C'est la pensée adéquate, c'est encore une abstraction de la pensée. Alors là, ces 4 divinités, s'il fallait les sélectionner, elles s'imposent. Si nous prenons le point de vue, si nous adoptons ce point de vue que c'est une création de gens dont le métier, en quelque sorte, était de faire l'exégèse des gathas, eh bien, ça, c'est incontournable, comme on dit aujourd'hui. C'est incontournable. Pour des raisons, ne fût-ce que de fréquence lexicale. Hein, leur nom est tellement fréquent dans les gathas. Et puis, leur personnification ne fait aucun doute. Ils sont personnifiés selon des critères que nous ne pouvons pas mettre en doute. Et ces critères, c'est par exemple de déclarer qu'ils sont fils ou filles d'Awa Mazda. Hein. Ce sont donc bien des personnes. On leur parle au vocatif. C'est aussi un critère évident de personnification. Donc, ces six entités divines, elles s'imposent. Elles ne peuvent pas être discutées. Et alors, il va, et autre chose, on va en donner deux autres où on pourrait discuter, effectivement. Hein, si nous avons été à la place un de ces théologiens de cette époque, nous aurions pu émettre des objections. Hein, parce que nous ne disposons pas des mêmes critères. C'est Horvatat, une allégorie de la santé, et Amurtat, l'immortalité. Alors, on s'arrête là. On s'arrête là. Pour quelle raison sélectionner six entités qui, avec Awa Mazda, vont en faire sept? Pour autant que nous puissions réfléchir à cette donnée qui, il y a une vingtaine d'années, est restée en suspens, vous savez, je vois trois raisons possibles. Ben, nous avons trois principes de sélection possibles. Le premier principe, c'est une raison exégétique. Nous venons de constater que les gens qui rédigent ces textes sont nourris d'exégèse des textes vieilles avestiques. Hein, même si nous n'avons plus leurs œuvres, nous n'avons pas malheureusement leurs commentaires. Mais la manière dont ils s'expriment, dont ils agencent leurs propres textes, nous livre des éléments de cette exégèse. Or, cette exégèse pouvait constater que le premier chapitre sacrificiel, le Yasna 37 du Yasna Haptankaiti, énumère avec Awa Mazda six entités. Bon, c'est une constatation qu'un exégète se devait de faire. Hein? Selon le Yasna Haptankaiti, associé au sacrifice d'Awa Mazda, tel que l'exprime le Yasna 56.1, il y a six entités. Ces six entités, ce sont ces quatre-là, et puis deux autres, féminines aussi. On nomme Daina, donc l'âme immortelle, nous avons. Et puis une autre, dont je ne puis vraiment rien vous dire, parce que ce nom-là, nul d'entre nous ne le comprend, c'est une entité Fsratu. Elles ont été éliminées. Elles ont été éliminées au bénéfice de deux entités gathiques, car elles sont mentionnées dans les gathas, ces deux-là, deux entités féminines. Alors, donc, les six entités du Yasna 37. Deuxième raison, pourquoi six entités? Eh bien, souvenons-nous du sacrifice de Hauma, selon la version du Yasht 10, parce que six entités plus Awa Mazda plus Hauma, cela fait un collège sacerdotal. Cela fait un collège sacerdotal. C'est ainsi que ce groupe de divinités est organisé dans le Mir Yasht pour investir Mitra de son rôle de protecteur du monde matériel. Donc, correspondance avec le collège sacerdotal. Troisième raison, donner leur nom au jour de la première semaine du mois. Donner leur nom au jour de la première semaine du mois. Le calendrier est ainsi constitué. Les Pauiriya Datadaman, les créations créées en premier, sont énumérées avec la première semaine du mois. Voilà les trois raisons qui ont dicté, peut-être. Hein, je les ai données dans l'ordre chronologique selon moi. Mais ça, c'est autre chose. Hein, je pense effectivement que c'est la première préoccupation qui a donné l'élan, et que les deuxièmes sont été, bon, c'était d'heureux hasards dont on a pu profiter. Mais cela, je ne le garantis pas, n'est-ce pas ? Je vous livre ici l'état de ma réflexion pour l'instant. Donc, voyez que la discussion que l'on a eue très souvent, pourquoi Srausha n'est-il pas un Amshaspanta ? C'est une question qu'on n'a pas à se poser pour les gathas. Si nous nous posons une question, la seule forme cohérente aujourd'hui, conforme à l'état actuel de nos connaissances, c'est dire pourquoi ne l'a-t-on pas sélectionné à ce moment-ci ? dans l'Avesta récent. Pourquoi ne l'a-t-on pas sélectionné? Son nom est dans les gathas, pouvait très bien lui faire place. C'est une abstraction métonymique de la personne pensante, comme Vohumana, comme Armaïti. Donc il n'y a pas de problème, mais si, il y en a un. Il y en a un et même plusieurs. D'abord, il est masculin. Les entités ne sont aucune masculine. Ces trois-ci sont neutres, celles-ci sont féminines. Donc le caractère masculin de Srausha était une raison de ne pas sélectionner. Il y en a une autre, lourde conceptuellement. On ne peut pas le considérer comme un Pauiriya Datadaman. Il appartient au monde matériel. Il n'appartient pas au monde immatériel. Dans l'ordre des naissances, il est loin d'être l'aîné. Il ne survient plus tard, Dieu du monde matériel. Dans la mesure où le groupe des Ameshaspenta est une sélection des dieux créés à l'état immatériel, il n'a pas sa place. C'est la deuxième raison. Qu'est-ce que cela a entraîné? Ça ne fait pas de Srausha, comme vous avez vu, un dieu subalterne, comme certains l'ont écrit. Ce n'est pas du tout ça. Il a reçu, ne pas avoir été sélectionné parmi les Ameshaspenta, lui a valu ce qu'on appellerait aujourd'hui un parachute doré. D'abord, son association avec les Ameshaspenta est évoquée en permanence, comme si c'était un complice très proche. Deux fois dans son voyage, on en parle. On dit qu'après s'être battu contre les démons, il revient à l'assemblée des Ameshaspenta. C'est adopté par le groupe, apparemment. Alors, il y a donc cette proximité. Alors, il est le seul, avec, mais ça, nous allons y revenir, avec Hauma, avec Ashi, qui est un texte qui lui est consacré à lui seulement dans le Yasna. C'est extrêmement rare. Seul Hauma et Ashi ont ce privilège. Ensuite, c'est un premier sacrifiant, c'est un sacrifiant primordial. C'est lui qui introduit le sacrifice dans le monde matériel et qui, d'une certaine manière, annexe à la dignité sacrificielle les dieux du monde matériel. Car ces dieux du monde matériel, n'oublions pas, c'est peut-être quelque chose que je voudrais vous rappeler avant, que selon les commentaires du Yasna 19 à 21, le sacrifice, la volonté de sacrifier des hommes a été émise après la création des trois entités neutres. Donc, la volonté sacrificielle est antérieure aux divinités. Elle est antérieure aux divinités. Ce qui n'est pas clair, parce que nos textes ne permettent pas d'en prendre une conscience parfaitement nette, c'est ce qu'il en est des trois entités féminines par rapport aux priorités sacrificielles, d'ailleurs par rapport à la priorité vis-à-vis du monde matériel. N'est-ce pas ? Donc, les divinités qui vont être créées par la suite, parce qu'elles appartiennent au monde matériel, il faudra les annexer petit à petit par des sacrifices d'investiture à la dignité sacrificielle. C'est ce que fait Srausha. C'est ce que fait Hauma. C'est Hauma qui est Zotar à ce moment-là. Srausha, c'est le sacrifice primordial. Puis les sacrifices d'investiture ont Hauma comme Zautar. Alors, il y a le rang de Ratu. Il a rang de Ratu. Il est le dieu Vertrajan par excellence. Je voudrais faire deux petites observations pour terminer, parce que je m'aperçois que le temps passe. Nous avons constaté quelque chose d'important, peut-être. C'est l'articulation entre les textes du sacrifice et les armes du combat antidémoniaque. Cette articulation nous montre qu'il n'y a pas de contraste, comme on a pu le dire, entre le Srausha abstrait du Yasna 56.1 ou des Gathas et le Srausha guerrier du Yasna 57. Il y a complémentarité. Les images sont contrastées, ça va de soi. C'est une complémentarité toute faite de contraste, mais ce contraste n'est qu'un produit de l'imagerie. Alors, ce qui est complémentaire aussi, nous voyons dans la formation de ces dieux mazdéens, c'est la complémentarité de deux processus. D'une part, l'exégèse théologique qui bâtit un dieu à partir de commentaires sur les textes anciens, et d'autre part un processus de mythologisation, un processus de mythologisation qui, elle, produit de l'imagerie. Mais les deux éléments, les deux volets sont articulés, ils ne sont pas contradictoires, ce ne sont pas des développements qui se contredisent. Il y a aussi, comme vous voyez, c'est que toute cette exégèse et toute cette mythologisation sont des innovations. Ce n'est pas un retour du passé, comme on l'a dit pour les Yacht. Il n'y a pas de passé pour ça. Sao Cha n'a pas de passé. Parce que toute cette exégèse et cette mythologisation sont pareillement fondées sur cette idée nouvelle des âges du monde. Les âges du monde. La mise en opposition de ce qui est immatériel et de ce qui est matériel. La priorité de la création de l'immatériel sur le matériel. C'est la voûte, c'est la clé de voûte de ce système exégétique, mais aussi de ce système mythologique. Cela ne peut, puisqu'innovation conceptuelle il y a, la mythologie est nécessairement nouvelle, elle aussi. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on ne va pas récupérer des motifs anciens, bien sûr, ça va de soi. Mais c'est une nouvelle mythologie, c'est une... Alors, voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous en avons fini avec Sao Cha. Nous résumons encore, mais nous passerons à Chi la semaine prochaine. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.